Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct au sein du comité Mamega, réalisé et produit par le comité Mamega et Radio Galère tous les derniers jeudis du mois, en direct au sein du comité Mamega. Je vous invite d'aller sur le site du vivreensemble.org. Vous allez voir le travail qu'on fait avec l'ensemble des partenaires du Grand Saint-Barthélemy. Et je passe la parole à Jean-Marc qui va vous parler de la thématique. À toi, Jean-Marc.
Et oui, bonjour. Merci, Farid. Bonjour, auditeurs et auditrices de Radio Galère. Concernant les échos du Grand Saint-Barthélemy sur les ondes de Radio Galère, 88.4 de la bande FM et sur le canal C de la RNT 1 DAB+. Bien sûr, il y a le site sur lequel vous pouvez vous connecter qui est le www.radiogalère.org. Vous pouvez de même nous appeler au 07 49 53 26 38. Ce n'est pas la peine que je puisse rappeler l'information communiquée par Farid, à savoir que l'émission se déroule tous les derniers jeudis de mois de 13h à 15h30 en direct du local du comité Mamega. Nous avons deux invités, comme tous les jeudis de ce jour, et avec eux, nous allons faire un point d'étape concernant la COVID-19 sévissant toujours dans les Bouches-du-Rhône, en nous arrêtant plus particulièrement sur la situation sanitaire de certains quartiers populaires, et notamment les quartiers nord. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons évoquer un autre virus, qu'est le racisme. Comme dirait l'autre, Bertolt Brecht, le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Galère sur 88.4, première pause musicale. Pierre Perret, la bête est revenue, j'aurais dit, la bête est toujours là. Musique avec Sidi.
Sait-on pourquoi un matin cette bête s'est réveillée au milieu de pantins, qu'elle a tous émerveillé en proclamant partout haut et fort, nous mettrons l'étranger dehors. Puis cette ogresse aguicheuse fit des clones imitatifs, leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leur dictat xénophobe, on chasserait tous les microbes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond, Bertolt Brecht nous l'a dit, il connaissait la chanson, celle-là même qu'Hitler a tant aimé, c'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les Juifs encore une fois que ces dangereux Ariens grandiront comme un épouvantail dans tout leur sinistre éventail. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur dont les 100 000 bouches crache le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu, petit, je l'ai vu, la bête est revenue.
Les Échos, en direct du comité Maméga, avec la participation de notre passeuse de mémoire, Karima Berich. Bonjour, Karima.
Bonjour.
Ainsi que de Saïd. Saïd est là, en animation avec moi, n'est-ce pas, Saïd ?
Salut.
Et nous avons nos invités, il y a Farid qui est présent, ainsi que Sidi. Nos deux invités, avec eux, nous allons nous entretenir de leur engagement dans la lutte contre le coronavirus. Ils vont se présenter. Yazid, tu vas nous autoriser à commencer par le docteur Slim Adigi. Bonjour.
Bonjour tout le monde. Je suis le docteur Slim Adigi. Je suis diplômé de l'université de Latimone. J'exerce dans le 13e arrondissement, dans un quartier qui s'appelle Les Oliviers. Et je suis responsable du centre d'urgence de la maison régionale de santé qui se trouve aussi dans le 13e arrondissement de Marseille.
Merci pour toutes ces informations. Concernant Yazid, est-ce qu'on doit le présenter ? Qu'est-ce que tu en penses, Karima ?
Oui,
alors, c'est un ami, un camarade, un militant et un excellent professionnel.
C'est un frère, un ami, un camarade. Puis c'est un personnage extrêmement complexe. Donc je ne sais pas qui aujourd'hui va prendre la parole chez M. Attala, mais je ne doute pas que ses propos seront toujours aussi percutants et intelligents.
Bonjour Yazid.
C'est le Yazid numéro 2, c'est ça. Bonjour à tous.
Donc nous vous remercions d'avoir répondu positivement à notre invitation.
Merci.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, évoquons donc cet autre virus qu'est le racisme pour lequel aucun vaccin n'a pu en être trouvé et n'a pu en venir à bout. Certaines personnalités rejoignent le parti de l'exclusion du rejet et du refus de l'altérité. Dans la même veine, d'autres tiennent des propos haineux appelant ouvertement à des passages à l'acte. Ces passages à l'acte nous renvoient à des événements dramatiques qui se sont déroulés à Marseille dans les années 70 et qui ont abouti à la marche pour l'égalité des droits. N'est-ce pas, Saïd ?
La marche pour l'égalité et contre le racisme.
Oui, tout à fait.
Alors, les propos de ce monsieur Tomasini, donc président du Yachting Club de la Pointe Rouge, d'ailleurs,
c'est l'ex, apparemment.
D'ailleurs,
on a dû le recaser ailleurs, peut-être qu'on l'a voyé en Martinique.
D'ailleurs, c'est là que j'ai appris que ce Yachting Club a des subventions, si j'ai compris, 160 000 euros pour un Yachting Club, c'est-à-dire que c'est des pauvres qui reçoivent des subventions. Et ce qui s'est passé est extrêmement grave. On a parlé de ratonnade. Ratonnade, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire d'abord colonisation, ça veut dire guerre d'Algérie. Et ça veut dire ce que tu as dit tout à l'heure sur les années 70, des assassinats ici même à Marseille. Et donc il a employé ces mots et après il a essayé de se justifier. Ce qui est grave aussi dans ce qu'il a dit, qui a un peu été oublié parce que par le mot ratonnade était tellement énorme qu'on a oublié le reste il a dit que tous les problèmes qui se passent là-bas, c'est imputé à des Maghrébins.
Oui.
Vous avez tout le monde entendu le grand débat actuel sur le mot racisé. C'est exactement ça, racisé. C'est-à-dire que il y a des personnes, on décide qu'ils sont ceci ou cela. Je veux dire, quand il y a déjà des problèmes, quand il y a y compris des actes de délinquance, on se pose la question de qui c'est ces gens, mais pas de savoir s'ils sont d'origine ceci, d'origine cela. Le seul fait de les qualifier de maghrébins alors que... Comment est-il qu'ils sont maghrébins ? C'est le faciès. Et donc la question du faciès, pendant des années maintenant, depuis des années maintenant, on parle des contrôles au faciès. Et là, donc, c'est pas la police, c'est quelqu'un qui est président de club qui décide de juger les gens au faciès, de décider qui est bon, qui est pas bon au faciès. Donc ça veut dire qu'il a pas besoin de savoir qui sont les gens, il veut juste savoir quelle est leur apparence.
Oui, tout à fait. Donc apparemment, il y a eu une petite levée de bouclier, mais cela nous renvoie aux propos tenus à l'époque par Guy Tessier, cela ne fait pas très longtemps, concernant la propreté de la ville de Marseille. Avait-il dit que Marseille s'africanisait, quoi, en quelque sorte. Donc ce qui était extrêmement grave déjà, et que ce sont des propos qui sont délibérés et qui sont exprimés. Oui, Saïd.
Et je veux ajouter que ces propos, évidemment, sont inacceptables, mais ils rentrent dans un cadre. C'est-à-dire qu'ils ne tombent pas du ciel. En ce moment, dans tous les médias, les chaînes d'infos, etc., le racisme est devenu quelque chose de banal et de normal. Donc, on peut tenir des propos comme ça. Et donc, entre autres, le gouvernement a une responsabilité très importante avec toutes les polémiques bidons qui sont sorties sans arrêt, notamment par des ministres. Ils ont eux-mêmes leur propre responsabilité dans cette affaire-là.
Pour les générations précédentes et à venir, peut-être il faudrait rafraîchir la mémoire. Il y a un excellent travail qui a été fait par notre ami et collègue Rachida Abrahim. Donc, est-ce que tu peux en dire deux mots, quatre paroles, parce que cela porte justement sur cette période tragique qui a affecté aussi le quartier, le quartier de Grand-Saint-Barthélemy.
Effectivement. Donc, Rachida Abrahim est docteur en sociologie. Elle fait partie de ce que nous, on appelle les nouvelles générations au regard de la nôtre, évidemment. Elle est née en 1982. Et elle s'installe à Marseille et puis elle, comme beaucoup, elle trouve un emploi dans le secteur associatif et le hasard a bien fait les choses. Elle va être embauchée dans des associations qui portent en mémoire la question des crimes racistes et des crimes sécuritaires. Donc les crimes sécuritaires, ce sont les crimes qui ont été commis par des policiers. Et cette histoire-là que nous portons, nous, les générations précédentes, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle génération, à travers la voix de Rachida, va s'intéresser à cette question, mais de façon scientifique, puisque ça va être sa thèse en sociologie. Elle va d'ailleurs l'avoir avec une mention très bien. Et un livre a été édité récemment avec le titre de sa thèse, en janvier 2001, aux éditions Sileps, si ça vous intéresse. Et ce qui est intéressant dans l'approche de Rachida, c'est que, bien sûr, en dehors d'une approche scientifique, en consultant des archives auxquelles elle a eu accès, etc., c'est qu'elle nous rappelle qu'effectivement, des associations militantes ont conservé souvent dans les caves ou dans leurs archives cette mémoire et cette histoire des crimes racistes. Donc ce qui fait que quelque part, tu parlais du Grand Saint-Barthélemy, évidemment, si on fouille un peu dans nos cartons, on aura l'histoire de la Houari Ben Mohamed. Tout on ne peut pas passer à côté de cette histoire qui a été un marqueur à la fois terrible et à la fois déclencheur d'une prise de conscience des habitants du Grand Saint-Barthélemy. Sur la question des crimes là, sécuritaires. Mais on peut parler aussi du jeune Zaher Boudjelal. C'est un crime raciste. C'est à un an d'intervalle, si je me souviens, au début des années 80. On a donc un jeune qui tombe sous les balles d'un policier et un autre sous les balles d'un raciste. 17 ans l'un et l'autre. Hein. 17 ans l'un et l'autre. Donc la mémoire, il faut la conserver, mais il faut lui donner cette valeur scientifique qu'est l'histoire. Et ça, c'est important, le travail qu'a fait Rachida. Mais je trouve, pour faire le lien, parce que si tu me l'autorises, puisque je suis un peu passeuse de mémoire de l'histoire du Grand Saint-Barthélemy, c'est aussi l'histoire que porte le comité Maméga. Il y a aussi aujourd'hui, depuis quelque temps, une réflexion sur les noms de rues. Les noms de rues dans des nouvelles rues qui sont construites dans le cadre du projet de rénovation urbaine de l'ensemble de la majorité des cités qui composent le Grand Saint-Barthélemy, on a le choix et le comité Maméga avec le collectif des Flamands a proposé qu'une rue porte le nom de la Houari Ben Mohamed.
Et bon, ça, on est en train de réfléchir pour qu'il puisse y avoir une date symbolique concernant la marche pour l'égalité contre le racisme voilà. Aussi, puisque n'est-ce pas, ça y est, la marche a transité aussi par les Flamands.
C'est une discussion qu'on aura entre nous. Moi, je suis plus pour que puisqu'elle a démarré à la Caillole, que peut-être une plaque à la Caillole qui commémore le départ de la marche.
C'est à réfléchir.
C'est à réfléchir, mais bon, et ça montre qu'on est dans ce foisonnement qui est important et qu'il y a comme ça un passage à faire de cette histoire et de cette mémoire à travers les nouvelles générations. Juste pour aller rapidement, Rachida s'est intéressée à une période particulière, parce qu'il a fallu aussi circonscrire sa recherche, parce que sinon c'était une fin sans nom. C'est les années 73 aux années 2003. Alors 73, il en a parlé notre collègue Saïd, c'est les ratonnades à Marseille, de triste mémoire. Et 2003, alors je ne sais pas pourquoi 2003, peut-être c'est pour faire 2013-2003, parfois des dates un peu comme ça, c'est 30 ans, hein, 30 ans de crimes racistes et sécuritaires. Mais 2003, c'est 2 ans avant les révoltes des quartiers populaires, suite à la mort de Ziad Ebouna. Donc il ne faut pas oublier que malheureusement, cette question n'est pas totalement terminée. Voilà ce que je voulais dire. Et sinon, j'invite nos auditeurs à aller sur YouTube et taper le média et le racisme tue deux fois parce qu'ils ont eu l'opportunité d'inviter Rachida Brahim, qui s'est exprimée relativement longtemps sur son livre et son approche et de ce qu'elle nous dit. Voilà, donc si vous voulez avoir un peu plus d'éléments sur ce livre qui est extrêmement intéressant, je vous invite à aller sur YouTube et taper Le Média, qui est un média alternatif indépendant sur Internet, et taper La race tue deux fois, Rachida Brahim.
Désirez-vous réagir? Oui, non, c'est
si,
à vous.
Si,
oui.
Si, on ne peut que réagir par rapport à ce qui a été dit et par rapport à ce qui a été dit auprès de ce monsieur, de l'ex-président du YCPR, Noting Club. Ben, on est attristé quand même, nous sommes en 2021, le débat est quand même assez nauséabond. On allume la télé, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une polémique autour de quoi que ce soit. On se rend compte que malheureusement la société se tend, le vivre ensemble de plus en plus devient de plus en plus un mythe et pas une réalité dans certains secteurs. Et on se rend compte que ben, la société, et notamment les jeunes, évolue très vite. Et ça, c'est important, parce qu'il y a une acceptation, quels que soient les jeunes, ben, du vivre ensemble et de la diversité. Et malheureusement, au niveau ben, on va dire des reliquats, certaines histoires qui sont anciennes, ben, il y a encore des gens, malheureusement, qui tiennent ce genre de propos. Moi, là où j'en veux, et j'en veux fortement... C'est effectivement lorsque tu as de l'instrumentalisation, qu'elle soit médiatique ou politique, de quelque bord que ce soit, à des fins simplement de faire taire le débat et de faire en sorte de faire progresser peut-être une tendance aux dépens d'une autre. Et ça, c'est un peu dangereux parce qu'à ce jeu-là, il y a toujours un retour de flamme. Et j'espère pour la France, j'espère pour notre pays, j'espère pour les gens qui vivent ici, qu'il n'y aura pas ce retour de flamme, parce que c'est souvent les plus précaires, les personnes les plus éloignées, les personnes les plus fragiles, qui sont souvent montrées du doigt sans qu'ils aient la possibilité de répondre.
Oui, désirez-vous réagir? Bon, c'est à vous.
Moi, je voudrais dire simplement que les camps, il y en a de plus en plus, et ça ne va pas s'arrêter. Donc, essayons de vivre plutôt ensemble, dans la sérénité, sans stigmatiser les uns les autres, dire ne cherchons pas à remettre la faute sur quelqu'un, ben dire c'est la vie, il faut c'est un cheminement qu'on doit traverser tous ensemble et ça sert à rien de se monter la tête les uns vers les autres.
Merci. Alors avant cette pause musicale, une citation de Malcolm X. Si vous ne faites pas attention, les médias vous feront détester les opprimés et aimer les oppresseurs. Musique, Galère sur 88.4, des échos.
Combien de lieux ton enfant doit-il faire avant de mériter des hommes? Combien de bleu pour l'oiseau sur la mer avant qu'au sable il ne se donne? Combien de guerres, de canons et de larmes avant que nos lois ne désarment? Pour toi, mon enfant, dans le souffle du vent, pour toi, la réponse est dans le vent. Combien de siècles aux falaises des rochers avant qu'elles ne sombrent sous la mer? Combien de siècles pour l'esclave enchaîné avant qu'il ne brise ses fers? Combien de siècles de regards détournés pour ne pas voir la vérité? Toi, mon enfant, dans le souffle du vent, pour toi, la réponse est dans le vent. Combien de fois lèverons-nous les yeux, sans même entrevoir la lumière? Combien de fois aurons-nous prié Dieu sans même un regard pour nos frères? Combien de morts d'enfants et de soldats avant de cesser le combat? Toi, mon enfant, dans le souffle du vent, pour toi, la réponse est dans le vent. Pour toi, la réponse est dans le vent.
Oui, les échos, Saïd, désirais-tu intervenir?
Il paraît que contrôle au faciès, c'est pas clair. C'est-à-dire contrôle en regardant le visage de la personne, en général parce qu'il est noir ou une tête d'arabe.
Merci pour cette précision. Donc, comme je le disais précédemment, vous pouvez nous appeler en composant le 07 49 53 36 26 38 plutôt. Pour le comité, le choix du thème s'inscrit dans la nécessaire contribution à la lutte contre le coronavirus. Virus qui peut compter, nous espérons, dans un avenir proche, sur un vaccin plus adapté pour le combattre. Alors, je ne sais pas si c'est un vœu pieux que je formule, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que nous allons nous acheminer vers un projet, que ce soit un vaccin unique, même s'il y a des intérêts financiers derrière tout cela, et qu'il soit un peu plus consistant que ce que l'on nous propose actuellement? Ça commence fort, n'est-ce pas?
Déjà, il faut poser les bases de la vaccination. Donc, actuellement, en France, on a le choix entre 4 vaccins. 2 sont issus de ce qu'on appelle l'ARN messager et 2 vaccins classiques. Donc, les 2 ARN messagers, c'est le Pfizer et le Moderna. Ce sont 2 frères jumeaux. La technique de cette vaccination, elle est très innovante puisque c'est la première fois où on a accès à un morceau du message que la cellule est censée envoyer de la centrale de fabrication à une annexe pour qu'elle produise une protéine. Donc on a pris ce messager-là, on l'a fragmenté, on a choisi un petit morceau, on l'injecte via le vaccin à l'être humain et on demande aux cellules humaines de fabriquer la protéine en question, et de ce fait, le corps humain la reconnaît comme étrangère, cette protéine, et il développe des anticorps qui vont lutter contre cette protéine-là, et ce qui induit par la suite, le jour J où cette personne-là vaccinée va rencontrer le virus du coronavirus, il va développer automatiquement, il va le combattre grâce aux anticorps qu'il a déjà précédemment développés. Les 2 autres vaccins qui sont l'AstraZeneca et Johnson, on appelle ça des vaccins classiques puisqu'ils utilisent une technique bien particulière, c'est des adénovirus. On les a toujours utilisés. Astra a fait le choix d'un adénovirus issu du chimpanzé. Il est inoffensif pour l'homme. Elle a introduit donc une protéine dedans. Cette protéine, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est la protéine qui sert à fabriquer ce qu'on appelle la protéine S, la membrane extérieure avec laquelle le virus s'accroche aux cellules humaines. Et ça permet au corps humain de synthétiser des anticorps dirigés contre cette protéine-là, contre un fragment de cette protéine, puisqu'on n'a pas injecté toute la protéine. Johnson, ils ont fait le choix d'un adénovirus humain, issu de l'humain, qu'on est parfois porteur de cet adénovirus. Ils l'ont neutralisé et ils se servent comme de cet adénovirus humain comme véhicule pour introduire la protéine dans le corps humain et de ce fait fabriquer les anticorps. Ces deux techniques, donc l'ARN messager a eu plus d'effets que la technique classique dans la fabrication du taux d'anticorps. On a observé avec les vaccins ARN messager, la personne humaine développait plus d'anticorps, donc on produisait en grande quantité, et on admet un taux de protection aux alentours de 90-92%. Par contre, l'AstraZeneca et le Johnson, leur technique a permis la fabrication d'un taux de protection aux alentours de 60%. Donc, si on a à privilégier dans l'absolu la vaccination, on irait plus volontiers vers ces vaccins vers ARN messager que les vaccins classiques. Or, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ni la quantité ni les compétences à en produire de façon suffisante pour la population française et on est tributaire des autres pays producteurs. Donc l'État, il a fait le choix de réserver les vaccins ARN pour les personnes les plus fragiles d'entre nous, donc les personnes âgées, puis les personnes qui sont porteuses de comorbidités, de maladies cardiaques, diabète, ainsi de suite. Et au début, le choix a été fait pour l'AstraZeneca de le réserver aux personnes les plus jeunes, de 18 à l'infini, si on veut. Or, il s'est avéré qu'avec l'AstraZeneca, on a observé au niveau mondial des complications de type de thrombose. Donc, ce n'est pas la thrombose classique qu'on connaît, nous, par exemple, chez les femmes, une thrombose veineuse. Non, il s'agit d'une thrombose au niveau du tronc cérébral, donc des vaisseaux au niveau du cerveau. Et c'est la complication majeure. Et quelques thromboses au niveau de l'épiplan, qui est un tissu qui enveloppe, disons, nos intestins. Et c'est vrai que ce sont des thromboses qui sont très sévères et qui peuvent induire, malheureusement, parfois, la mort. Donc l'AstraZeneca, de ce fait, a été retiré dans un premier temps en disant « on va faire un audit au niveau mondial, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui sont les personnes qui ont été touchées par cette thrombose-là » Et on a remarqué que c'était plutôt les femmes et les femmes jeunes. Donc la plus âgée, je crois, elle avait 48 ans, celle qui malheureusement qui est décédée. Du coup, l'État, par sécurité, il a fait une marge de sécurité en disant ben, de rien avant, l'AstraZeneca, on va privilégier que les personnes au-delà de 55 ans parce que chez eux, on n'a jamais observé ce risque de thrombose. Cela nous a un peu coupé l'herbe sous les pieds puisque la population vieillissante comme on la connaît, avait besoin d'une vaccination, mais on avait de moins en moins de doses du coup disponibles. Du coup, on a encore plus limité la chose, puisque les vaccins qui étaient potentiellement disponibles à une population plus que générale se sont bien concentrés à une population encore moins réduite. Donc le nombre des postulants a augmenté et le nombre de vaccins a diminué. Oui.
Merci, mais nous reviendrons. Vous n'avez pas encore terminé.
Après, j'enchaîne sur votre première question qui était est-ce qu'on va avoir un vaccin unique ?
Oui.
Je ne pense pas personnellement. Ma conviction intime, c'est que le virus de lui-même, il mute sans qu'on intervienne. Donc, c'est une évolution naturelle qu'il a. Et malheureusement, cette évolution peut le conduire à être éventuellement résistant aux vaccins qu'on a actuellement. C'est pour cela que certaines firmes, vous avez entendu que, par exemple, Pfizer pouvait produire éventuellement l'année prochaine un autre vaccin pour essayer de lutter contre ces mutations qui apparaissent au fur et à mesure du temps. Et
donc, comme pour le vaccin de la grippe.
Oui, mon idée, ça va être comme le système de la grippe. On aura tendance à fabriquer un vaccin chaque année. Mais avec quand même une note positive, c'est que peut-être ce virus de lui-même, il va s'éteindre. Et donc, on n'aura pas à fabriquer des vaccins perpétuellement et à lui courir après. Parce que du fait de certaines maladies par le passé, ils ont créé des pandémies mondiales et sont éteintes d'elles-mêmes sans l'intervention de l'homme.
Merci pour cette lueur d'espoir. Mais j'ai anticipé par rapport à cela. D'abord, je vous propose d'aller à votre rencontre. A fait faire connaissance, à savoir quel était votre cheminement professionnel, que ce soit l'un et l'autre, si vous travaillez dans le public, dans le privé, vos fonctions depuis combien d'années et votre secteur d'intervention. Donc, je vous laisse la parole.
Alors, moi, je suis échographiste, donc je travaille dans des cliniques privées. Et en ce qui me concerne, je suis le président d'une association qui s'appelle Santé et Environnement pour tous. Donc c'est une jeune asso, mais les membres de cet asso sont un peu plus aguerris. Ce sont des militants qui ont, dès le départ, pris fait et cause par rapport à l'accès aux soins. Vous avez à l'intérieur des professionnels de santé, des professionnels du social, donc des gens qui connaissent les territoires et qui connaissent la santé, notamment à Marseille. On est sur, malheureusement, une santé de manière inégalitaire et qui est, malheureusement, pour certains territoires, totalement absente. Donc c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a mis en place au départ dans les années 2014 en essayant de se battre contre la fermeture de l'hôpital d'Aveyron, Ensuite, c'était en 2012, ensuite en 2014 contre la fermeture de la clinique privée Beauregard. Puis on s'est rendu compte que systématiquement réagir après coup, c'était jamais bon, donc on a préféré anticiper et pourquoi pas proposer des solutions en connaissance du territoire. Donc en ce sens, la maison régionale de santé de Malpassé, qui a été créée il y a à peu près 6 ans à Malpassé, est en ce sens une oasis d'espoir médical pour les gens de ce secteur. Et je laisserai après Slim en parler s'il le souhaite. Mais pour nous, voilà, ce sont des modèles qu'il faut. On est conscient que dans nos secteurs, un hôpital, en tout cas, on espérerait voir un hôpital s'implanter en plein cœur du 14e ou autre. Malheureusement, ça ne prend pas le chemin. Et donc, on a essayé de proposer, et dès le départ de cette crise sanitaire, avec Slim, on s'est rendu compte que ceux qui allaient souffrir le plus, c'était les personnes les plus éloignées, les personnes les plus précaires. Forcément, lorsque vous avez un tissu médical qui est totalement fragile, il suffit qu'on vienne et qu'on vous accable un peu plus pour que vous soyez complètement acculé par le poids de cette crise sanitaire. Et donc, on a créé des propositions. On a ouvert un centre de dépistage dès le mois de mars qui était ouvert à tout type de public, 7 jours sur 7. Et en plus, on proposait aux gens qui venaient nous voir un accompagnement social, de l'aide alimentaire pour ceux qui en avaient besoin, du moins une orientation vers les centres qui proposaient de l'aide alimentaire, et surtout un rappel des gestes barrières. Et donc, on était en ce sens accompagné par la PHM, l'Hôpital Nord, et je remercie Annie Lévy-Mouziconacci et le docteur Amélie Ménard qui nous a accompagnés. Je remercie aussi Médecins Sans Frontières qui nous ont aussi accompagnés pour qu'on puisse prendre en charge tous les gens qui n'avaient pas de papier, tous les gens qui devaient se faire dépister. Pour rappel, le mois de mars, il n'y avait pas de dépistage. Il n'y avait pas d'écovillon, il n'y avait pas de test. Donc on a réussi quand même à faire en sorte que, pour les quartiers nord, dans le 15e et dans le 13e, les habitants puissent avoir une solution à portée d'immeubles. Ensuite, notre association continue, donc on fait de l'accompagnement. On a fait, pendant toute la période d'octobre, une initiation aux gestes barrières auprès des publics qui peuvent être éloignés du champ médical ou même des publics très très précaires. Et puis, on a essayé de proposer des solutions au moment où personne ne proposait des solutions. Quand il y avait des crises pour l'accession en masque, on proposait des masques, on proposait du gel hydroalcoolique. Et là, on est sur la partie vaccinale. On se rend compte que, comme le disait tout à l'heure mon collègue Slim, les gens souhaitent bien se faire vacciner. Il y a eu une grosse polémique qui ne nous aide pas en ce sens. Mais il y a des personnes qui aimeraient se faire vacciner. Mais quand vous avez une fracture numérique, quand vous avez des personnes âgées, quand vous avez des personnes qui ne comprennent pas, ils n'ont pas accès de manière normal à ces centres de vaccination. Et donc on est en train de travailler, il y a une initiative qu'on doit quand même souligner, la mairie actuelle via les centres sociaux demande quand même à essayer d'organiser la vaccination parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne touchent pas le public. On est quand même sur un taux, et là je déborde un peu par rapport à ta question, on est sur un taux d'incidence, c'est-à-dire un taux de positivité dans notre secteur, je suis en train de le regarder avec Slim, qui nous effraie un peu. On est quand même sur une moyenne au niveau du département qui doit être aux alentours de 10,48 à peu près. 10,48%. Dans nos secteurs, on est à 17%.
Oui.
Donc on est quand même sur un taux, et au niveau national, on est à 8%. On est quand même sur un taux qui nous interpelle. On continue à faire ce travail d'explication autour des gestes barrières, autour du port du masque. On s'est rendu compte que les gens n'avaient pas assez financièrement au masque. Donc on leur donne des masques. Il faut qu'ils se protègent, il faut qu'ils comprennent. Et ensuite, il faut qu'ils se vaccinent. Vite, vite et vite.
Donc, cela renvoie un peu à notre rencontre avec le docteur Adjigi au moment où il a lancé le cri d'alarme. J'ai l'impression que ce dont tu parles aujourd'hui, c'est la même problématique qui existait dès le premier confinement, n'est-ce pas, au niveau du taux de contamination.
Tout à fait, juste peut-être ça a changé de communauté, si on veut.
Oui, oui.
C'est vrai que l'année dernière, au mois de mars, j'étais sorti un peu de ma place tranquille derrière mon bureau pour monter au créneau et alerter la communauté comorienne sur un danger qu'il allait la condamner malheureusement à perdre beaucoup de ses concitoyens. Et comme c'est une communauté que vraiment j'adore beaucoup et mes patients, ils sont très très nombreux dans cette communauté-là. Donc j'ai pris les devants et j'ai alerté. Et heureusement que ça a bien fonctionné, puisque après le raz-de-marée qu'on avait eu, à titre d'exemple, on avait réalisé sur la maison régionale de santé 249 prélèvements. Donc c'était la semaine précédant le confinement de mars. 139 étaient revenus positifs. Donc c'est 1 sur 2 qui étaient positifs au Covid. Et dans cet échantillon, il y avait une grosse majorité de personnes issues de la communauté comorienne. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des fêtes, il y a eu des rencontres, etc. Et le signal au niveau national n'était pas si clair que ça. On ne prévoyait pas le confinement immédiatement, etc. Donc, peut-être certains, ils ont accéléré la chose et peut-être fêté des mariages avant l'heure, etc. En tout cas, ils étaient très exposés. Et donc, c'était pour ça que j'avais adressé mon message d'alerte à cette communauté. Message qui a été très, très bien accepté par la grande majorité de ces personnes-là, qui me remercient chaque jour. Hein, donc, ils continuent. Certains d'autres, ils ont mal interprété mes propos. Ça m'a valu des menaces de mort, mais tout ça, c'est du passé. Et donc, après, on a collaboré ensemble. On a monté un comité de veille avec une cellule de veille comorienne destinée vraiment à cette communauté-là. Et pour les aider à se soigner, les aider au niveau alimentaire, etc. Après, le virus, il ne connaît pas la couleur, il ne distingue pas si on est blanc ou noir, comorien, arabe ou blondiné. Il a changé de bord. La communauté comorienne, elle a fait attention à elle. Et c'était plutôt après les personnes d'origine arabe qui étaient plus touchées parce qu'ils faisaient moins attention et il fallait continuer à alerter. Et c'est vrai qu'au niveau de nos quartiers, la vie elle est pas si simple que ça. Donc la promiscuité aide beaucoup ce virus à se propager. Et donc on avait découvert des foyers familiaux énormes. En disant qu'en mars dernier, à part l'IHU, il n'y avait personne quasiment sur Marseille qui faisait du dépistage. Donc, avec l'IASID, Médecins Sans Frontières, Annie Lévy et Amélie Ménard, on a monté ce qu'on appelle le dispositif Nord-Covid. Donc, avec deux tentes implantées sur le parking de la Maison Régionale de Santé. Et on offrait à la population, 7 jours sur 7, on était les seuls d'ailleurs, à proposer ça, un dépistage gratuitement, d'accord, pour la Covid. Et un accompagnement. Et dès le départ, j'ai donné une directive parce que je pensais que c'était la bonne et c'est avéré, d'ailleurs c'est la bonne. On envoie immédiatement un infirmier au domicile des patients dépistés positifs pour faire le dépistage de tout l'entourage. Et donc cette initiative-là a été reprise récemment au niveau national. Ça fait peut-être 3 mois que grâce au contact Covid, tracing de la sécurité sociale, l'ARS PACA elle avait émis l'idée que notre dispositif portait bien ses fruits et au niveau national, ça a été propagé à toute la France.
Il a été auditionné par rapport à cette stratégie, par rapport à ce qu'on a mis en œuvre au mois d'octobre. Octobre, c'est ça, je crois. On a été auditionné au niveau national par rapport à ce qu'on a pu mettre. Juste pour répondre un peu à ta question concernant qui touche malheureusement ce virus touche les plus précaires d'une manière générale. Voilà, et on s'est rendu compte que habitant dans une tour, habitant dans un T2, alors que vous êtes 6, 7 personnes qui vivent, comme tu disais, la promiscuité, ce sont malheureusement, et c'est les derniers chiffres, et notamment l'enquête de l'INSEE qui est effroyable, c'est une honte pour le 5e pays et la 5e puissance mondiale. Quand tu te retrouves quand même à avoir des gens qui dorment dans une cuisine, et ça a été vérifié dans le cadre de reportages, pour s'isoler, pour se protéger. On est tombé sur des situations mais catastrophiques. Juste en bas, à fond vert, une famille qui a vécu pendant 3 semaines dans un balcon. Heureusement pour eux que c'était pendant la période estivale. 3 semaines dans un balcon pour ne pas contaminer leurs enfants. Nous, on a toujours été avant-gardistes. Alors, c'est pas être prétentieux que de dire ça, mais on a toujours senti les coups venir. On savait que les coups et que la vague allait venir. On a anticipé et on a proposé parce qu'on est ancré dans le territoire et on connaît les gens. Et donc, on a toujours proposé des solutions. Malheureusement, l'inertie de l'administration, voilà, quelle qu'elle soit, hein, et je jette la pierre à personne, quelle qu'elle soit l'administration, fait que c'était un gros mammouth et il prend son temps avant de réfléchir et de se mettre en action. Par contre, je remercie l'Agence régionale de santé qui nous a soutenus quand même. Ça a été compliqué au départ, et finalement, dès qu'ils ont vu que c'était la bonne direction, on a toujours eu des gens qui nous ont soutenus parce qu'ils savaient qu'on pourrait relayer l'information auprès de la population. Et c'est important quand même d'aller vers les gens, et pas d'attendre qu'ils viennent vers nous.
Saïd, oui.
Pour avoir une idée de l'ampleur de votre travail, combien de personnes sont engagées dans votre réseau?
Alors, tu me parles des salariés de l'association ou le réseau partenarial et...
Enfin, des intervenantes, des personnes qui... que ce soit celles qui vaccinent ou celles qui vont voir les familles, etc.
Alors, autour de la Maison Régionale de Santé de Malpassé, je vais laisser Slim détailler les chiffres.
Bah, la Maison Régionale de Santé comporte 26 spécialistes donc, et 10 médecins généralistes, avec un centre d'urgence composé de 7 médecins généralistes et 3 médecins généralistes de jour. Nous, notre fonctionnement, on est vraiment hors clou, disons. Notre fonctionnement de le centre d'urgence, on est ouvert la nuit de 20h à minuit, le week-end, le samedi 14h à minuit et le dimanche de 9h à minuit. C'est un concept que j'avais inventé il y a 7 ans en arrière, que j'avais proposé au Conseil de l'Ordre qui avait bien voulu l'accepter. On est la seule structure de tout Marseille à avoir ce fonctionnement-là. Les médecins qui sont engagés dans le centre d'urgence sont 7 médecins généralistes. Chacun, il a son cabinet principal ailleurs. Il vient faire des gardes en plus. Ce n'est pas pour déshabiller Paul et habiller Jacques. Chacun, il a son cabinet. Et c'était la c'était quelque chose que, pour moi, c'était fondamental que les médecins qui travaillent dans ce centre-là soient déjà des médecins installés, des médecins de terrain. Donc la majorité, on est tous des urgentistes. Et on est proche de la population. Donc, il y avait une fibre déjà associative qui les animait. Les médecins qui sont installés, les spécialistes qui sont installés sur la Maison Régionale de Santé, ce sont des médecins qui sont engagés à être en secteur 1, sans dépassement d'honoraires. Donc, c'est des médecins qui respectent que certaines personnes n'ont pas les moyens de se payer 50 ou 60 euros la consultation du spécialiste ou un dépassement d'honoraires. Et donc, à la fois les consultations et éventuellement les opérations, puisqu'on en a des chirurgiens parmi eux, ces médecins-là ne prennent aucun dépassement d'honoraires. Donc, ça, ce qui est un peu la particularité de la Maison Régionale de Santé. À ce dispositif-là, on a une trentaine d'infirmiers qui collaborent avec nous, d'accord ? Et donc, c'est grâce en grande partie à eux que pendant le premier confinement, on faisait les dépistages au sein des foyers des quartiers nord. Et à cela, on a un laboratoire qui vient nous soutenir. Et je tenais à le remercier parce que tous les prélèvements même, ils étaient non payants à une période où les prélèvements, ils étaient payants. Donc, on avait œuvré et on a milité au niveau national pour que la PCR soit remboursée. J'aurais bien voulu aussi le traitement des patients Covid soit pris en charge à 100%, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et donc, on a aussi deux pharmacies qui ont collaboré avec nous, et parfois en fournissant les médicaments gratuitement pour les personnes qui n'avaient pas d'aide ou de sécurité sociale.
Juste pour répondre par rapport à l'association 7, puisque Slim, en plus d'être médecin généraliste à Malpassé, est le médecin référent de notre asso. Actuellement, on a fait sur les dépistages. Alors, bien sûr, on n'est pas un laboratoire ambulant. Nous, lorsqu'on va dépister, on propose des solutions, on accompagne les familles, on discute avec l'entourage, on essaye quand même de les accompagner et de ne pas simplement que dépister. On est en moyenne sur à peu près, chiffre bas, 400 dépistages par mois depuis le début. Sur la période du confinement, on a fait, sur les 3 mois, on a fait à Malpassé entre 3 et 4 000 dépistages. Je reprécise, dans une période où les dépistages, les tests n'étaient pas nombreux. Et là, lorsqu'on va vers les gens, c'est vraiment de l'aller vers. On installe nos tentes en bas d'immeuble, dans les quartiers, et on attend rien. On va chercher les gens pour qu'ils viennent se faire dépister. Et en cas de, malheureusement, de positivité, on déclenche toute l'infrastructure, c'est-à-dire un infirmier qui se déplace, un accompagnement à domicile, on évalue les risques pour les familles, on fait les traitements. Il faut savoir qu'on a demandé depuis le début une méthode, une feuille de route pour les généralistes par rapport aux situations, parce qu'on a récupéré malheureusement des patients qui étaient quasiment à 2 jours près et qui allaient mourir. Une patiente qui était totalement déshydratée, à l'âge de 80 ans, dont le généraliste a donné que du doliprane. Son fils nous a interpellés, on est venu, donc on était un peu mal à l'aise par rapport à la prescription qui a été faite. Mais au bout d'un moment, on a pris nos responsabilités, on l'a réhydraté, on a fait en sorte que cette patiente puisse avoir des chances de vivre. C'est ce qu'on fait en permanence. En permanence, on intervient, on essaie de dénouer des situations qui sont très compliquées. On va vers des gens qui n'ont pas de papier, on essaie de leur proposer aussi des solutions médicales, ils ont le droit de vivre. C'est ce qu'on fait, c'est sûr que 400 tests par mois, au vu de ce qui se fait dans les laboratoires, j'allais vous dire c'est peu, mais on n'est pas un laboratoire ambulant, on a cette spécificité de s'adapter à la structure. On est arrivé dans des secteurs à la Castellane ou dans d'autres secteurs. Là, je viens d'avoir un petit texto où j'ai une de mes médiatrices qui s'est fait agresser verbalement par une certaine catégorie, par une certaine personne. Donc, je tire mon chapeau à tous les collègues avec qui on travaille. Je les remercie parce que c'est vraiment des... C'est des militants, voilà. Ce sont des gens qui sont engagés, qui aiment la population et qui vont vers elle. Et si cette action a été remarquée au niveau national, au niveau médiatique, parce qu'on a été couvert même à l'international, la BBC a fait un reportage sur nous, c'est qu'elle est particulière. Et encore une fois, toute proportion et toute modestie gardée, nous avons plus de chance à Marseille, dans les quartiers populaires, que dans d'autres quartiers populaires en dehors de Marseille.
Nous allons faire une pause musicale. Je pense que lorsque vous intervenez aussi auprès de certaines populations, la barrière de la langue est de mise aussi, ce qui accentue les difficultés. Donc moi, je vous propose une chanson créole qui parle de protection, qui parle du coronavirus, interprétée par Didier Simpri. Mais je peux traduire, voilà, étant créole moi-même, en disant qu'il faut respecter les gestes barrières, etc. etc. Galère, c'est 88.4, Les Échos. Merci, Sidi.
Pour nous préguer un combat à la
Covid-19 pas qu'à jouer l'humanité en danger.
L'esprit déchiré mal faufilé, l'esprit déchiré qui au combat
à nous soulager le personnel hospitalier.
Être tranquille c'est un bon remède, surtout à dans des moments comme ça. Oui, ça chaud là.
Away!
Et oui, nous reprenons en direct. Tu voulais poser une question ou...
Ouais, c'est peut-être une remarque. Ce que tu disais sur la manière de fonctionner, c'est à peu près ce que j'avais compris qu'il fallait faire. En France, on a dit qu'il fallait faire ça. Et apparemment, il y a très peu d'expérience comme la vôtre.
Alors, il y a deux périodes, en fait. Il y a la première période du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, où quasiment nous étions les seuls à faire, à proposer ce packaging complet. C'est-à-dire du social, du médical, de la prévention. Ensuite, on a été, comme je t'ai dit, auditionnés, les choses sont mises en place progressivement, et puis par décret, je crois, au mois de décembre, l'État a décidé en fait, de mettre en place un mode de fonctionnement dans lequel un infirmier se déplace et puis un associatif se déplace. En mon sens, je n'ai pas connaissance en tout cas des visites à domicile d'associatifs hormis les nôtres. Alors après, je peux me tromper, hein, je n'ai pas la science infuse, mais sur les secteurs, en fait, on s'est partagé le territoire marseillais en deux. Tu as le projet Coresan, c'est les collègues de l'hôpital européen qui sont mandatés pour prendre du 1 au 8e arrondissement. Et puis, tu as 7, nous, du 9 au 16e arrondissement. Ensuite, au-delà du territoire marseillais, tu as la Croix-Rouge et tu as une autre association, j'ai oublié le nom, Acte Santé, je crois, qui s'occupe du territoire de l'étang de Berre. Donc ça a été mis en place progressivement, mais vraiment aussi complet comme on le propose, parce qu'on est les seuls à proposer du médical, par exemple. Quand tu interviens chez une patiente qui n'a pas de médecin, comment tu fais pour derrière la remettre dans un circuit médical et la prendre en charge médicalement ? Eh bien, nous, on a une mallette de télémédecine. Immédiatement, on arrive, on rentre en consultation avec la patiente et avec Slim, pour qu'on puisse évaluer ses critères de vitaux, quoi, et évaluer son cœur, son poumon, et lui proposer une prise en charge. Là, par contre, honnêtement, et je suis objectif, nous sommes les seuls à proposer ça, oui.
Oui, donc tout à l'heure, hors antenne, je posais là une question, à savoir comment vous, du monde de la santé, avez-vous rencontré pour la première fois la Covid ? Est-ce que le fait d'apprendre bien après à l'époque de la ministre de la Santé Buzyn, comment avez-vous vécu les choses ? Rencontrer la Covid, il a dû y avoir beaucoup de retard à l'allumage, pourrions-nous dire ?
C'est vrai que c'est un virus nouveau, donc c'est une nouvelle pathologie, on ne l'a pas apprise au niveau de la faculté, donc il fallait vraiment se mettre au quotidien à jour. Personnellement, j'ai voyé quelques cas au mois de février sans pouvoir étiqueter la pathologie chez mes patients. J'ai demandé l'avis de mes confrères, est-ce qu'ils voyaient les mêmes choses que je voyais ? Et tout le monde s'accordait à dire que c'est une pathologie qui ressemblait à un syndrome grippal, mais que c'était pas la grippe. Et donc on s'interrogeait tous sur ces cas-là. Et après, c'est vrai que le professeur Raoult, il était pionnier dans ce domaine-là. Il a commencé à en parler. Donc il a commencé à alerter la population. Bien qu'avant, il avait dit que c'était une grippette, hein, mais toute chose gardée, il a le mérite d'être parmi les premiers à en avoir parlé et informé la population. Et à cette époque-là, hein, je vous rappelle qu'on consultait sans masque. Hein, donc moi, personnellement, j'étais exposé, je touche du bois, j'ai jamais attrapé la Covid. Mais tous les médecins, on était tous sur le terrain et on était tous confrontés à ce virus, nouveau virus que personne ne savait comment il fallait se dépêtrer et les cas graves commençaient à arriver. Moi, personnellement, d'emblée, j'ai perdu 3 patients qui sont retrouvés en réanimation, qui sont décédés rapidement, dont une jeune maman de 48 ans qui a laissé 3 orphelins. Ça m'a beaucoup affecté et c'est de là que c'est parti un peu mon combat personnel contre la Covid et alerter la communauté comorienne sur les dangers, puisque cette patiente-là était par ailleurs une grande amie et une grande connaissance. Ça faisait 17 ans que je la suivais et j'étais très peiné de la perdre. Et c'est ce qui m'a décidé de m'engager dans la lutte contre la Covid. Et
On a rencontré Yazid et on a dit qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Et on a rencontré d'autres médecins engagés de l'hôpital Nord, donc docteur Annie Lévy et docteur Ménard qui est infectiologue. Et on a décidé de monter notre comité Nord-Covid et on a associé à notre démarche Médecins sans frontières. Et c'était le début de l'histoire. Donc... Malheureusement, ce virus-là, il nous apprend tous les jours. Il y a toujours un truc nouveau et des complications nouvelles et des séquelles qu'on découvre au fur et à mesure du temps. Et donc la lutte, elle continue. Elle n'est pas prête de s'arrêter de sitôt. Mais la vaccination ouvre une grande porte. Mais elle n'est pas la seule. Si on vaccine, mais si on ne garde pas les mesures barrières, les gestes de protection... Le virus, il va continuer à sévir et il ne faut pas regarder juste au niveau de sa porte, il faut regarder au niveau mondial. Il y a d'autres pays qui n'ont pas accès à la vaccination encore et on n'est pas les plus lotis du monde. Mais en tout cas, l'espoir, il est là, même s'il est infime, on va le saisir et pour essayer de retrouver notre vie d'avant.
Oui, compte tenu de votre investissement, surtout auprès des plus précaires, quel type de relation peut se tisser? Est-ce qu'il y a une relation de confiance ou au contraire beaucoup de méfiance de la part des personnes qui disent « moi je n'ai rien » ou qui sont dans le déni ou autre et qui refusent de vous écouter ou bien d'être prises en charge médicalement?
C'est une question qui est très complexe mais essentielle. Il y a beaucoup de gens, et on n'a pas été aidés hein, par les médias, on n'a pas été aidés par même des mesures gouvernementales, des fake news aussi. Donc c'est vraiment la question du coronavirus, elle est très très complexe à approcher parce qu'il y a toute une sphère, tu vois, de fake news qui tourne autour.
Oui, tout à fait.
Et donc nous, on a essayé dans le cadre de nos ateliers de prévention déjà de décortiquer les différentes fake news. Ça, c'était important. Beaucoup de défiance, des gens qui nous disent « non, mais c'est une grippette, c'est rien du tout, c'est que dalle » ou « ça n'existe pas, ça a été inventé ». Le fait est que le virus est là, le fait est que le virus tue. Le fait est que le virus fait quand même des ravages chez des gens qui ne sont pas prédestinés, parce qu'on a eu on a suivi des cas, des sportifs de 40 ans, de 30 ans, qui se sont retrouvés pliés et à terminer. Pour certains, heureusement, ils s'en sont sortis, pour d'autres moins, mais voilà, des gens qui n'étaient pas prédestinés, qui n'avaient pas des facteurs de risque aggravants. Mais c'est très compliqué. Cette approche, il faut qu'on puisse discuter, nouer un lien. Et c'est pour ça que cette stratégie d'aller vers les gens et de leur proposer un accompagnement, de venir régulièrement faire de la pédagogie, ressasser, est fondamentale. Parce que on se rend compte, l'État se rend compte que la partie vaccinale ne marche pas partout. Et à un moment donné, c'est soit une défiance de la population, soit un problème de communication. Dans tous les cas, ça reste un problème de communication. Et nous, ce qu'on essaie de faire, on n'a pas de stock option dans un tel ou tel labo, mais en tant que professionnel de santé, on sait que se faire vacciner, c'est une priorité. Et donc, on essaie d'aller vers les gens, de leur expliquer ce que c'est que le vaccin dans un premier temps, de comprendre pourquoi ils ne veulent pas se faire vacciner, quelles sont les défiances, quels sont les freins, mentales ou idéologiques, ou peu importe. Et à partir de là, on essaie de leur proposer. Et là, la deuxième stratégie qu'on va mettre en place, c'est d'accompagner ces gens-là vers la vaccination. Il y a beaucoup de gens, des personnes isolées à domicile, des personnes âgées, qui se retrouvent et on les côtoie dans le cadre de nos actions, dans le cadre de l'accompagnement. Et ce sont des gens qui veulent se faire vacciner, mais ne parlant pas le français, ou n'ayant pas des aidants, ou n'ayant pas Internet, parce qu'ils sont encore à l'analogique, n'ont pas accès aux soins. Et ça, pour moi, c'est intolérable. Donc on est en train de voir, il y aura une réunion qui aura lieu le 7 mai, avec les partenaires, l'agence régionale de santé, la préfecture, la mairie centrale, la mairie du 15-16, pour essayer de trouver une solution, des modalités, de la logistique pour accompagner ces gens-là qui souhaitent se faire vacciner.
Saïd ?
Un des effets graves de ce virus, c'est la question psychologique, la question psychiatrique. Est-ce que vous travaillez sur ce domaine-là ?
Alors, on rencontre de plus en plus des syndromes de glissement, notamment chez les personnes âgées, mais pas que. Mais pas que, et c'est en ce sens ce que je te disais tout à l'heure, le chiffre de 400 dépistages, il est à mettre en lien avec cet accompagnement social et psychologique et médical. Donc on prend le temps d'aller vers les gens, de discuter avec eux, de comprendre leurs craintes. Hier, par exemple, un exemple très clair, très concret, hier on était du côté des Égalades. je croise le directeur du centre social qui croise une mamie, quoi, une mamie même pas, c'était une femme d'une soixantaine d'années, qui était suivie pour malheureusement un cancer et qui n'était pas sortie de chez elle depuis un an. Un an chez elle. Et donc, ça génère quand même psychologiquement de la tension. Moi, quand je vais voir les gens, je leur dis « mais il faut vous aérer, il faut sortir ». Le fait de rester alité, sédentaire, tue plus que de sortir. Si vous restez, quelles sont les craintes que vous avez ? Protégez-vous, lavez-vous les mains, on essaie de leur expliquer et de les accompagner. Ça nous arrive de faire sortir, et des fois on tombe dans des situations qui nous émeut, où il y a des gens qui voient réellement, voilà, qui sentent l'air, et tu as l'impression de les avoir sortis de prison. Mais oui, le syndrome de glissement, tu les as chez les personnes âgées, mais pas que.
Oui, donc ce que j'entends derrière tout cela, c'est qu'il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre des personnes qui ont accès aux sanitaires, aux soins, et les autres qui habitent notamment dans les quartiers populaires, qui sont de plus en plus en difficulté. Est-ce que vous avez observé ce phénomène aussi de glissement social, économique, et que les gens sont de plus en plus justement enfermés dans leur tour d'ivoire chez eux, où ils se sentent en sécurité, mais sans avoir de moyens de subsistance économique d'un point de vue matériel?
Alors moi, oui, on l'a remarqué. Après, je blâme pas les gens qui ont une villa, des gens qui ont... loin de là. Certains ont travaillé pour, donc... Par contre, c'est vrai que pour les habitants des quartiers pop, pour les habitants qui vivent dans des endroits quand même très très précaires et qui vivent de boulot très très précaire, ils sont de plus en plus déclassés et enfoncés dans une crise quasiment humanitaire pour certains. Il y a des gens qui vivaient avec des petits boulots aux alentours de 14-15 euros qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler pour manger. Et même s'ils ont la Covid, et même s'ils sont atteints. Des femmes de ménage, des hommes qui travaillent dans la sécurité, des gens qui vivent de petits boulots précaires, 3 jours de carence ou même s'ils sont malades, ils n'y vont pas. Alors certes, ils ne connaissent pas leurs droits parce que la Sécu, à partir du moment, pour ceux qui travaillent, la Sécu, à partir du moment où tu es touché, il n'y a pas de jours de carence, mais certains sont encore dans ça. Je ne m'arrête pas parce que je vais avoir 3 jours de carence. Et d'autres n'ont pas accès à un système de santé, à un système de protection sociale parce qu'ils n'ont pas de papier. Oui, il y a un déclassement. Clairement, il y a un déclassement qui a été fait. Après, il va falloir quand même faire le bilan de cette année. Je pense que on ne sera pas loin de ce qui aura été fait et dit auparavant, c'est-à-dire ceux qui souffrent le plus, ce sont les plus pauvres. Et là, c'est encore plus criant. On est passé, je ne sais plus les chiffres, certains vont peut-être m'arracher les yeux, on est passé, je crois, de 6 millions de pauvres à 8 millions de pauvres, c'est ça, ou 9 millions en l'espace de 3 mois. Mais grosso modo, il y a eu une explosion de la pauvreté. Mais ça, c'est ce qu'on dit depuis un bon moment. La pauvreté, c'est comme la poussière qu'on cache sous le tapis. Au bout d'un moment, elle est visible.
Juste une question, vous n'êtes pas pédiatre, mais le masque, les enfants, comment réagissent-ils et peuvent-ils vivre un peu cette situation, non seulement intérieure, la maison, hein, et sur l'extérieur? Bon, vous rencontrez, sont-ils affectés? Comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils sont de plus en plus en difficulté avec ce système scolaire qui dysfonctionne plus qu'autre chose, et surtout dans les quartiers populaires?
Nos enfants, ils sont complètement chamboulés. Leur vie, elle a complètement changé du jour au lendemain. Disons que l'année dernière, la directive était les enfants sont moins bien touchés par la Covid au niveau national. En tout cas, on disait ça. Pour moi, c'était une grosse connerie. Et la preuve en est, c'est que cette année, ils sont obligés de porter le masque. Ils étaient aussi contagieux l'année dernière que cette année. Donc, encore plus maintenant avec le mutant, certes, mais ils ont toujours été porteurs et transmetteurs du virus. Donc, le masque, oui, c'est une priorité, quel que soit l'âge. Donc, c'est vrai que la Covid chez les enfants donne très peu de syndromes graves, quoique il y en a, mais comparé à l'adulte. Donc, oui, porter un masque pour un enfant, c'est pas si évident que ça. Encore moins si c'est un bébé qui regarde sa maman à travers un masque, il comprend encore moins, parce qu'on a été confronté plusieurs fois des contaminations chez des femmes qui venaient d'accoucher. Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc, heureusement, il y a quelques masques avec une encoche transparente pour laisser paraître un peu les lèvres. Mais un visage déguisé, c'est pas rassurant pour un enfant. Les autres enfants qui portent le masque au quotidien, ça, bah, c'est une gêne, hein, on respire moins bien avec un masque que sans masque. Donc eux aussi ne comprennent pas, mais c'est à nous de leur expliquer l'intérêt de porter ce masque-là et espérer, grâce à ce masque, pouvoir réouvrir l'école comme dans le temps, quoi.
Juste pour compléter ton propos, Slim, c'est un coût financier aussi qui est non négligeable pour les familles. Il faut savoir qu'une boîte de masques pour enfants, c'est entre 7 et 10 euros, suivant l'endroit et suivant le niveau de filtrage du masque, la performance du masque. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on continue, lorsqu'on va vers les gens, on leur donne quand même, dans la mesure de nos capacités, du gel hydroalcoolique, des masques pour adultes et des masques pour enfants, parce que pour nous, c'est une nécessité à les protéger. Je profite des zones de Radio Galère pour passer un message. Si des gens veulent nous faire des dons de masques, vous êtes les bienvenus. On est preneurs, donc on les donne en direction des personnes les plus précaires.
Moi, c'est une question, docteur, à vous poser concernant ce qui vient de dire Yazid, concernant d'autres pathologies à part le Covid. C'est qu'il y a pas mal de gens qui ont peur d'aller aux hôpitaux. Comment assurer les habitants qui nous écoutent actuellement? Merci.
Ma réponse serait un peu mitigée, dans le sens où on dit que certains professionnels de santé ne sont pas mis à la vaccination et pourraient être une source de contamination pour les personnes qui se déplaceraient dans les hôpitaux. Donc, en tout cas, la majorité du personnel de soignants sur Marseille, il a été vacciné. Donc, c'est un point important pour le souligner. Ça permet aux gens de les rassurer. Se déplacer à l'hôpital, ça doit rester quand même une nécessité. Donc, s'il y a besoin d'une opération, d'intervention, d'une consultation spécialisée, oui, les gens devraient se déplacer à l'hôpital. Mais si c'est pour des consultations de routine, il vaut mieux éviter et laisser nos confrères des hôpitaux qui travaillent d'acharnement, avec acharnement à sauver des vies et à préserver la vie des autres. Donc, oui, on y va si vraiment on a besoin. Sinon, on reste chez soi et on peut consulter son médecin généraliste, soit en consultation au cabinet physique, soit en téléconsultation, puisque l'État il a ouvert, d'ailleurs, c'est une bonne action vraiment à souligner, c'est qu'on a accès maintenant à la téléconsultation, il s'est pris en charge à 100%, sans que vous avanciez des frais, vous pouvez avoir votre consultation médicale avec votre médecin de chez vous. Le cas échéant, s'il a besoin de vous consulter, là, vous vous déplacerez à son cabinet si le problème il est grave ou il le juge important, qui vous voit physiquement. Là, il vous le demandera. Sinon, il va vous conseiller de rester chez vous. Il vous donne des directives. Maintenant, on peut envoyer l'ordonnance par Internet, à la pharmacie ou au patient lui-même. C'est une très bonne évolution. La téléconsultation ne résout pas, mais en tout cas, elle aide énormément dans la stratégie thérapeutique face à la Covid.
Cela évite tant soit peu qu'il puisse y avoir un nombre de patients dans une salle d'attente aussi incroyable qui peut devenir des lieux de cluster aussi.
C'est vrai, mais paradoxalement, ce n'est pas chez les médecins qu'il y a eu les contaminations.
Nous sommes d'accord. Okay. Oui, il y a Saïd qui voulait aussi intervenir.
Oui, des questions sur les tests. Première chose, les tests qu'ils ont fait de manière aléatoire, au hasard, est-ce que ça a un sens que, bon, aujourd'hui, je vais en faire un, dans 3 jours, et puis dans 2 mois, j'en fais pas. Et deuxièmement, là, ce qui est nouveau, là, donc, c'est les tests dans les lycées, dans les collèges, etc. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, moi, je suis pour. Très concrètement, c'est ce qu'on demandait depuis le début. C'est ce que le corps éducatif, les enseignants demandaient aussi, hein, depuis le début, à être protégés, parce que les enfants contaminent beaucoup. Du moins propage plus facilement. Et c'est important qu'on puisse derrière les vacciner, mais de manière non invasive, c'est-à-dire les tester de manière non douloureuse. Et donc les tests à l'hiver en ce sens, pour eux, c'est plutôt facile plutôt que de mettre un coton-tige dans la narine. Plus on teste, mieux c'est. Très concrètement, plus on est précoce, mieux on soigne.
Donc je reviens sur les autotests et les inégalités. À savoir comment nos populations de nos quartiers peuvent-ils s'auto-tester alors que les autotests sont à des prix prohibitifs proposés par la pharmacie. Est-ce qu'il peut y avoir des réponses ou bien un mouvement d'action, que ce soit avec les habitants, des associations, des partenaires, pour demander à ce qu'il y ait cette possibilité d'accès aux populations les plus précaires, à ces autotests aussi, avec toute une série d'accompagnements pour l'apprentissage et les sensibiliser à se tester aussi.
Alors, heureusement qu'il existe quand même des centres de vaccination. Toute personne qui souhaite se faire... J'insiste sur la vaccination. Toute personne... Bah, je suis déjà dans l'étape d'après. Il faut se faire vacciner. Mais toute personne qui souhaite se faire tester, il y a des labos, et c'est gratuit. Et même si on n'a pas de papier, on est couvert. Donc, en ce sens, hormis la prise de rendez-vous qui peut être gênante dans certains secteurs, dans certains labos, je pense que les autotests, pour moi... Après, c'est mon point de vue. Ça reste quand même... un complément, une arme supplémentaire, mais je préfère quand même être sûr avec un test fait par un professionnel, que ce soit antigénique ou fait par une PCR. Alors, ils vous disent, il y a une sensibilité, on n'est pas obligé de l'enfoncer, on peut aller juste autour de la narine. Moi, j'aime bien que les choses soient bien faites et qu'elles soient faites par des pros, donc moi, je suis plus favorable par les tests antigéniques et les tests PCR que les autotests.
Oui.
Ben, l'autotest, il va s'adresser plutôt à quelqu'un qui travaille, pas quelqu'un qui est au chômage, parce que déjà, ça a un coût financier. Ça va s'adresser à quelqu'un qui a peut-être un comportement à risque, qui ne respecte pas les gestes barrières, et donc inconsciemment, il va se tester pour essayer de savoir s'il a été contaminé ou pas, pour qu'il ne se sente pas coupable de transmettre cette pathologie à quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça a un coût. Et donc, je vois mal nos quartiers en bénéficier spontanément comme ça. S'il n'y a pas une aide du département ou de la mairie pour la population, payer 20 euros des tests, la population n'a même pas de sous pour acheter des masques, ils ne vont pas s'acheter des tests. Alors que les tests, ils sont gratuits chez le médecin, chez l'infirmière, chez le pharmacien du coin, au laboratoire. Donc je vois mal cette initiative aboutir à quelque chose dans nos quartiers.
Oui, tout à fait. Déjà que la population est en difficulté pour se nourrir, pour donner à manger à leurs enfants, pour penser à faire des dépenses de cet ordre-là, même si ça pourrait être utile dans une certaine mesure. Je vous propose de faire une autre pause musicale pour nous acheminer vers la fin de l'émission, à savoir que nous aborderons un peu un sujet qui est très douloureux, qui concerne le deuil. Le deuil, est-il possible? Est-ce que c'est quelque chose de très douloureux? Mais comment les personnes ou les patients que vous accompagnez peuvent-ils réagir dans la mesure où ils ne peuvent pas respecter certains rites funéraires en fonction de leur culture ou culturellement? Galère, c'est 88.4. Merci, Sidi.
Superdan en international. Voilà que le monde connaît un ennemi. Quand l'épidémie est générale, c'est la pandémie. Pour le moment, la solution c'est rester confiné. Se laver les mains à tout moment, ne pas contaminer.
Bissim la nuit de Tidor, de Lusakunyan. Dignan y a le fond d'angoulou, le poulou cognan. Si t'as né de Yakkel, disopi halat. Diffiwele andoun, d'album la liaï. Halel reuni ni la kutoke wa
e kaile mukhli mana fikri
sona nay corona bi worona fi banya ñew lembena aduna ji nañ ko xex mu banya law fajaru fagaru raxasu te banya jaxaso bësu bobi musiba sax duñ ko farté di ko
jangoro bu melni bi ku ne di xex ci aduna kon jaaduna ñu tok ci kër gi banu yo gi moy du kenn ko bari gi banu ray corona
t'aurais pu être sauveur de l'humanité sans tous ces morts. Le fait de plomber nos économies font partie de tes torts, mais à part ça les familles se retrouvent, on respire cool, la médecine et la star.
Warnen ma son, why it a hun yu bay, bay de jay, te moi tu jotai, doga se ker bay il met de me, warlen le nyu digle nyu dun chitai.
Yem, halel, reumi, ni la kubege, wow.
E, kailin, mukhekli, man na fi jugi.
Jelim sin mutu why corona ken nuko new lord all day. tous ensemble pour le vaincre. Ni la gobe gewa
rap te du la khat lo gisul suko om tala lo wa kirlo.
Oui, une respiration musicale. Vous êtes toujours à l'écoute des Échos du Grand Saint-Barthélemy. Avant de poursuivre avec nos deux invités, le docteur Adjigi ainsi que notre ami Yazid, nous allons faire intervenir une intermittente de spectacle qui participe à l'occupation de Zef, du Théâtre du Merlan, en quelque sorte. Oui, vous êtes en direct des Échos du Grand Saint-Barthélemy sur la zone de Radio Galère. Donc, nous avons une partie concernant la vie du quartier. Nous souhaiterions savoir un peu où en est l'occupation du théâtre, le Zef, le Théâtre du Merlan.
Eh bien, l'occupation se poursuit comme partout en France. Il y a 104 lieux en France occupés, comme le Théâtre du Zef. Et nous recevons avec beaucoup de plaisir les gens du quartier qui veulent venir discuter avec nous. Parce que, en fait, notre combat actuel, c'est de repousser la réforme de chômage qui va être mise en place au 1er juillet pour toute la population, pour tous les gens qui vont perdre leur emploi et qui va être dramatique pour la précarité ambiante suite à la crise sanitaire. Voilà pourquoi nous nous battons en ce moment et nous invitons tous les gens intéressés à faire grandir ce combat contre cette réforme à venir nous rejoindre.
Oui, et c'est intéressant, d'autant plus que nous, dans le cadre de l'émission de ce jour, nous recevons le docteur Adjigi ainsi que notre ami Yazid Yatala, deux membres du monde médical, donc ce que du personnel. Donc nous pensons que peut-être ça serait imaginer des projets. Bon, j'ai réfléchi à deux voix, à savoir que comme vous êtes intermittent de spectacle, est-ce que l'on ne pourrait pas réfléchir à une mise en place de scènes, mettant en place la difficulté de la vaccination, de la mise en place de la vaccination, et comment cheminer avec les habitants qui viennent vous rencontrer pour qu'ils puissent accepter la vaccination à un moment donné. Je ne sais pas comment vous pouvez réagir par rapport à une telle proposition. Yazid, ça c'est comme cela m'est venu, donc je le dis, je suis cash, comme dirait les jeunes. Ouais, c'est du direct.
Oui. Alors, nous, effectivement, on travaille moins sur ce plan-là pour l'instant. Nous, ce que nous souhaitons surtout, c'est que les soignants soient aidés dans leur mission, c'est que les finances publiques puissent être à nouveau attribuées aux hôpitaux publics, à la sécurité sociale, nous qui nous fait défaut dans nos secteurs culturels, puisque nous n'avons pas travaillé depuis un an et donc nous manquons cruellement justement de couverture sociale pour beaucoup d'entre nous, aussi bien techniciens que femmes enceintes qui n'ont pas leurs indemnités journalières. Nous nous battons aussi pour que ce qu'on appelle l'année blanche puisse être prolongée pour tous les emplois discontinus, c'est-à-dire les gens ne se retrouvent pas sans rien. Et nous espérons surtout aussi un plan de relance pour la culture, pour réouvrir les lieux, mais de façon plus lointaine en fait. L'important pour nous étant vraiment de faire reculer la précarité. Alors, si vous voulez, on peut de toute façon se retrouver hein, au théâtre. Au contraire, on y est jour et nuit de toute façon, on y est nombreux, on tourne, on fait des ateliers de sensibilisation à pas mal de choses. Et y compris, ça peut être un atelier de sensibilisation à la vaccination, ou en tout cas, on a déjà mis en place un atelier concernant le passeport vaccinal, parce que ça, pour nous, ça nous semble absolument terrifiant. Voilà, de ne pas pouvoir aller au spectacle ou au restaurant ou autre parce qu'on n'est pas vacciné. On estime que la liberté de choix est quand même importante à préserver. Et évidemment, de faire attention en termes de précautions sanitaires, ce que nous faisons depuis que nous sommes dans le théâtre du ZEF. Nous sommes extrêmement respectueux des gestes barrières, des masques, du public, voilà, enfin du public, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui occupent, ou des gens qui viennent voir nos ateliers ou participer aux ateliers. On est extrêmement très prudent avec tout ça parce que pour nous, ce serait vraiment dramatique d'avoir un cluster, vous comprenez. Donc, on continue notre occupation parce que nous n'avons pas encore de réponse du gouvernement. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons, avoir des réponses.
Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Nous sommes solidaires avec votre action, hein, ce qui est tout à fait naturel. Et vous pouvez...
Merci.
Comment
Je dis communiquer merci parce votre... que la culture est quelque chose d'essentiel dans, oui. Dans le lien social qui nous unit. Et justement, on travaille aussi avec le CB, avec la Bucherine, évidemment. Et vraiment que les gens n'hésitent pas à venir nous rencontrer, à venir nous voir, à discuter ensemble de l'avenir commun que nous pouvons avoir et d'éventuellement rêver ensemble à un monde beaucoup plus juste, plus égalitaire. On se retrouve le 1er mai, en tout cas nous, dans la rue, pour manifester notre désir de justice. Et si vous le souhaitez, nous retrouverons au Théâtre du ZEF. Vous venez quand vous voulez, à partir du matin jusqu'au soir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous rencontrons les gens. Et d'ailleurs, on est en lien avec l'APREM, on est en lien avec pas mal de gens déjà du quartier, des infirmières justement qui travaillent avec des jeunes, des étudiants. Et volontiers, quand vous voulez.
Ok, je vous remercie pour votre intervention. Nous aurons le plaisir de nous rencontrer, puisque nous sommes à proximité, afin de faire connaissance et envisager quels moyens nous pourrions développer aussi dans ce sens-là, dans l'intérêt des habitants de nos quartiers. Merci beaucoup et bon
merci
courage.
Merci à vous de m'avoir allez. Reçu.
Merci.
Au revoir.
Allez, merci. Au revoir. Alors, Yazid, oui. Nous arrivons à la dernière partie de l'émission. Nous allons rebondir concernant les vaccinations. S'il y avait un vaccin à conseiller qui serait, bon, parce qu'AstraZeneca, vous en avez dit deux mots, touché deux mots, avec toute cette méfiance qu'entoure ce vaccin. Le Moderna, et plus le Pfizer et Johnson & Johnson. Donc ça fait beaucoup de choix, c'est comme une marque de lessive quand vous allez au supermarché et que vous êtes noyé, vous ne savez pas quelle marque de lessive choisir. Voilà. Alors, oui.
C'est vrai qu'au niveau de la vaccination, le choix il n'est pas multiple, on en a quatre, donc il faut en choisir parmi les quatre. Si on doit vraiment classer ces vaccins, la priorité des priorités irait vers le Pfizer et le Moderna. Je dis bien Pfizer et Moderna. Ce sont deux frères jumeaux parce que tout le monde parle du Pfizer et personne ne parle du Moderna. Alors d'accord. Que c'est vraiment le frère jumeau, quoi. Il n'y a pas assez de pub pour ce vaccin, disons. Et donc la priorité des priorités irait vers ces vaccins-là pour les personnes les plus âgées, les personnes les plus fragiles. C'est vrai. Au niveau des études qui sont sorties, ces vaccins-là marchent même pour les variants. Le variant brésilien, on entend beaucoup parler, variant sud-africain. Mais il n'y a pas assez d'études pour conclure vraiment à 100% de leur efficacité et que de l'inefficacité des deux autres, que ce soit l'AstraZeneca ou le Johnson. Pour preuve, au niveau de en Angleterre, ils ont 15 millions de vaccinés avec l'AstraZeneca et le mutant britannique ici de chez eux, il fait zéro mort. Donc c'est que l'AstraZeneca aussi, il est très efficace. Mais l'AstraZeneca, il va s'adresser, comme j'ai dit, aux personnes âgées de plus de 55 ans. Donc toute la population, disons, de 18 à l'infini, ça va être du Pfizer au Moderna, vu les directives actuelles. Mais peut-être ça va évoluer. Et le Johnson, c'est comme l'AstraZeneca, c'est un super AstraZeneca, entre guillemets, c'est une seule dose, contrairement à l'AstraZeneca, c'est deux doses. Lui aussi, l'indication, c'est 50 ans et au-delà de 50 ans. Donc, si j'ai personnellement à classer, je vais vous dire Moderna, Pfizer, AstraZeneca et Johnson. Ils se talonnent tous. L'essentiel, c'est de se faire vacciner. Ça, c'est le maître mot à retenir. Toute personne, vraiment, si elle doit agir contre la Covid, si elle doit se protéger elle et protéger les autres et protéger sa famille, tout le monde doit se faire vacciner et on ne doit pas rester sur des idées un peu farfoulues de, qu'on va vous injecter la 5G, que le vaccin ne vous rendra pas plus beau ou plus moche, vous n'aurez pas les yeux bleus ou les yeux marrons après. Donc le vaccin,
je confirme,
il est vraiment...
Je suis toujours moche.
Oui, mais c'est peut-être le Sputnik 5, le vaccin russe.
Mes cheveux, non, qui est toujours moche.
Le vaccin russe, c'est comme l'AstraZeneca, hein, c'est de la même famille, c'est une vaccination classique. Hein, le chinois, pareil, on n'en parle pas parce qu'ils ne sont pas parmi le lot proposé en France, hein, mais c'est des cousins à l'Astra et le chinois, pareil. Donc, contentons-nous de ce qu'on a sous la main. Utilisons toutes les doses, parce que certaines doses, ils ne trouvent pas encore preneur. Donc, motivons-nous pour aller nous faire vacciner. Aidons les plus démunis, les plus fragiles d'entre nous, qui n'ont pas accès à Internet, à prendre des rendez-vous. Et là, je solliciterai la mairie, le département, de mettre des dispositifs d'aide pour les personnes âgées, les personnes reculées, les personnes isolées à aller vers la vaccination. Faisons des navettes qui transportent nos grands-mères des quartiers vers les centres de vaccination. Donner accès à la population des quartiers nord, des créneaux prioritaires dans les centres de vaccination, puisque au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ceux des quartiers nord qui se font vacciner chez nous, c'est ceux d'ailleurs en majorité. On avait œuvré avec les Yazid au tout début de la vaccination, des centres de vaccination, qu'on réserve une grande part des centres pour la population des quartiers nord, parce qu'au début, il n'y en avait pas. Donc, on était abasourdis d'entendre qu'on avait 100 doses sur l'hôpital nord pour les quartiers nord. On a eu la double peine l'année dernière. Ce sont les plus pauvres qui ont morflé. Et ils morflent par le logement et ils morflent par le Covid. Et ils morflent encore plus lorsqu'ils n'ont pas accès à la vaccination. Donc, c'était un comble pour nous de savoir qu'il n'y avait que très peu de doses pour les Marseillais des quartiers nord. Je ne veux pas faire une opposition quartier sud, quartier nord, mais la vérité était un fait. On n'avait que ces 100 doses sur l'hôpital nord. Maintenant, il y en a un peu plus. Et heureusement, la mairie du 15-16, elle a ouvert le centre de vaccination. Et maintenant, il faut aider la population des quartiers nord vers ce centre-là pour qu'on mobilise le maximum de personnes et pour faire vacciner le maximum de chez nous.
Il me semble que l'hôpital Laveyrin a un centre de vaccination aujourd'hui.
Tout à fait. Il est très récent. Avant, il n'y avait pas. D'ailleurs, pour moi, c'était une absurdité de ne pas intégrer l'armée dans ce dispositif. Le président, il a parlé d'une guerre, mais une guerre, elle se fait avec tous les moyens du bord, et donc par les civils et par notre armée. Donc, exclure l'armée dès le départ de ce plan d'action, pour moi, c'était une aberration. Donc, heureusement que l'Aveyron, elle participe maintenant. Je crois qu'ils sont en capacité de 1000 vaccins par semaine. Mais pareil, pour l'Aveyron, ça sera toujours la fracture numérique. Donc, il faut une aide spécifique pour les personnes, une vraie politique pour les gens des quartiers nord, des personnes âgées, pour qu'ils accèdent à juste titre à la vaccination qui leur est destinée.
Peut-être qu'il y aurait une réflexion à avoir avec les associations équipements sociaux aussi, qui disposent d'outils informatiques, de pouvoir prévoir des temps pour permettre aux habitants qui sont sujets à cette fracture numérique à pouvoir accéder à un appareil ou à un membre de un personnel pour qu'ils soient là, à la disposition pour prendre les rendez-vous et leur permettre de les accompagner, de faire la démarche. Ça, c'est à réfléchir, je pense, pour l'ensemble des partenaires aussi. Alors, du Grand Saint-Barthélemy.
C'est l'objet, en tout cas, de notre interpellation qu'on a faite auprès de l'ARS, de la mairie, et c'est l'objet aussi de la réunion que nous allons avoir le 7 mai, alors en visio sûrement, avec l'Agence régionale de santé, la préfecture, les deux mairies, 15-16 et la mairie centrale, pour essayer de trouver un mécanisme en partenariat avec les associations, ça c'est indéniable.
D'accord. Saïd, tu désirais intervenir ?
Oh, c'était sur le vaccin. Le vaccin français va arriver un jour, non ? on parlait de la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Quand il va sortir, est-ce que vous pensez qu'il va tenir compte des variants ou est-ce qu'il va être standard ?
Personnellement, je n'ai pas d'informations, donc je me contenterai de ce qu'on a sous la main actuellement, vu l'état d'urgence. Donc, on parlait du Johnson comme c'était le sauveur du monde, et on a les mêmes problématiques que l'AstraZeneca. Donc, le futur vaccin, c'est dans un futur, bon, pas précis, Et encore moins, est-ce qu'il aura les efficacités nécessaires ? Ça, je ne suis pas prédicateur, mais je ne peux pas prévenir l'avenir. Mais ce que je sais, c'est que plus vite on vaccine, mieux on va s'en sortir et on va surtout survivre. Et j'utilise bien ce mot-là, survivre. Parce que quelqu'un qui est touché du Covid, selon la tranche d'âge, selon les facteurs de risque qu'il a, malheureusement, on continue à décéder. C'est vrai que maintenant, les chiffres à la télé, ils parlent que de chiffres, hein, de décès. Et c'est, si on citait les noms, les prénoms...
C'est une déshumanisation.
Déshumanisation totale. Mais malheureusement, au quotidien, on perd beaucoup de nos concitoyens. Et c'est une grand-mère, c'est un grand-père, c'est un frère, un papa, une maman, à quelqu'un. Et ça, c'est très dur à vivre. Vous parliez tout à l'heure vous citiez le deuil.
Oui.
En dehors de la Covid, déjà, c'est très dur de perdre quelqu'un. Avec la Covid, ne même pas pouvoir le voir sur le lit d'hôpital, ne pas parler avec cette personne-là, la revoir au moins une dernière fois, ou même la sépulture, en enterrer les gens dans un cercueil hermétique, on ne les voyait pas, c'était très dur, et ça continue à être très dur à vivre.
Et d'autant plus difficile pour l'organisation des obsèques. Bon, oui, par exemple, lorsque nous avons un parent qui décède, moi, originaire de Martinique, le cas échéant, ça aurait été très compliqué de rapatrier le corps pour permettre à cette personne-là de reposer dans sa terre natale. Je ne sais pas, l'Algérie, c'était un peu le cas. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a cette possibilité, même si tous les rites funéraires autour de ce décès ne peuvent pas être respectés. Donc, ma question, c'est de penser, de considérer que le deuil, peut-être, il est aujourd'hui interdit dans le contexte actuel.
C'est très, très compliqué. C'est une question qui est quand même hyper sensible, malheureusement, parce que les gens n'ont pas la possibilité de finir leur deuil. Beaucoup de gens vivent ça comme un arrachement, comme un déchirement. Il y a des familles qui suivent le deuil par visio, par Skype, par WhatsApp, ce genre de choses. Et honnêtement, j'aimerais pas vivre ça. Et pour connaître certains qui l'ont vécu, c'est compliqué pour eux de faire leur deuil. Franchement, ils ont toujours le goût d'inachevé, le goût de quelque chose, et ils culpabilisent. Donc, voilà, j'aimerais pas être dans leur situation. Je vais passer la parole à Karima.
Oui, d'autant plus que, comme nous arrivons au terme de l'émission, nous souhaitons rendre un hommage aussi à certains camarades qui nous ont quittés, pour les accompagner aussi.
Tout à fait. Depuis tout à l'heure, j'ai devant moi le visage de notre ami et camarade Sid Ahmed Abadli, trop tôt disparu des suites de la Covid-19, décédé le 17 décembre 2020. C'est un ami, c'est un camarade, c'est quelqu'un qui, depuis 2010, se bat pour qu'effectivement les habitants du Grand Saint-Barthélemy, notamment ceux qui sont logés par la Logirem, puissent être entendus dans leurs revendications, dans leurs demandes, etc. C'est une énorme perte. On s'y fait pas. Le deuil, il concerne évidemment la famille, hein, ce qu'on appelle les très proches, hein, mais les amis, les camarades de lutte. On est aussi un peu dans cette situation. Hier après-midi, j'étais dans le local de l'association de locataires avec la nouvelle présidente. Bon, il y a ses photos, il est présent, il est là. Et puis, ça a été brutal pour nous. Il n'y a pas eu d'accompagnement, malheureusement, du fait de la situation dans laquelle nous sommes. On n'a pas pu rendre un hommage public. Et ça manque parce que dans le deuil, je crois qu'on a besoin des moments où on peut se rassembler, parler de la personne de là où on est. Voilà, ça n'a pas été fait. C'est toujours avec beaucoup de tristesse. C'est pas que de la tristesse, il a raison, Yazid. Hein, c'est autre chose parce que la tristesse, quand on perd quelqu'un, elle est là. Hein, de quoi que la personne décède, la tristesse est là. Là, il y a autre chose. Quelque chose que je n'arrive pas à définir, mais comme une forme d'injustice, quelque part. Oui. Et qu'on ne nous a pas donné les moyens, et on ne peut pas, malheureusement, de faire un deuil du départ d'un ami et d'un camarade. Voilà, vraiment, oui. Si tu nous manques. Je ne sais pas comment on va faire sans toi, parce que les questions se posent toujours de façon cruciale, dans un rapport inégal entre les locataires et le bailleur social. Tu voulais que je fasse le lien avec le Grand Saint-Barthélemy. La troisième phase du projet de rénovation urbaine n'est pas terminée. Les retours que j'ai de l'association de locataires, c'est qu'ils ne sont pas entendus. Et s'ils savaient taper sur la table et faire respecter la parole des habitants. Voilà, c'est ce que je voulais dire, un peu avec beaucoup d'émotion. Parce que, voilà, il est...
Merci beaucoup, Karima. Nous arrivons au terme de l'émission. Donc, je vais vous laisser la parole, d'une part, afin de pouvoir conclure. D'autre part, c'est surtout pour donner des coordonnées, numéro de téléphone aux habitants, que cela nous permettra aussi de pouvoir relayer au fur et à mesure, d'afficher et de dire, voici, il y a une possibilité de vous faire tester si vous êtes volontaire, si vous êtes prêt aussi à ce que... qu'un soignant puisse passer à votre domicile pour vous tester, toutes ces informations que nous pourrions aussi communiquer, nous, en tant qu'acteurs de terrain aussi. Alors, je vous laisse la parole et le mot de la fin, ainsi que les différentes informations.
Pour moi, je vais finir sur une note positive. C'est que c'est sûr qu'on va s'en sortir et c'est sûr que le Covid aura une fin. D'accord ? Et ça sera sa fin à lui et pas la nôtre. L'humanité, elle sera toujours debout et lui, il sera couché. Donc, s'il vous plaît, allez-y vous faire vacciner. Protégez-vous de ce Covid-là et protégez vos proches.
En ce qui concerne l'association, bon, je donne un numéro de téléphone qui peut être utile à toutes et à tous. Je rappelle le nom de l'association. Alors, c'est 7 Santé Environnement pour tous. Vous pouvez suivre sur Instagram 7.asso, sur Facebook pareil, sur le site internet est en cours de création. C'est dit, 7.asso sur Instagram. On essaie d'être Jones. Sur le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre au 07 49 80 95 60. 07 49 80 95 60. Et par mail, c'est contact, par mail, c'est asept@contact.gmail.com.
Ok, merci beaucoup.
Merci
plaisir
à vous.
De vous retrouver à nouveau pour une autre émission, en espérant que, suite aux propos du docteur Adjivi, effectivement, que ça sera une histoire très, très, très ancienne. Il y a un combat, une guerre, que les militaires... pour utiliser le terme guerrier du président, que vous êtes toujours au front, que vous allez au front jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il n'y aura pas de médaille pour vous. Bon, donc, nous nous excusons aussi par le fait que nous ne pouvons pas diffuser les communiqués, malheureusement, hein, compte tenu du temps qui nous est imparti. Mais néanmoins, ça sera la fois prochaine, jeudi dernier, dernier jeudi du mois.
Oui, tu as oublié quelque chose d'important, c'est le replay. L'émission repasse mardi prochain à 11h.
Voilà, alors vous pourrez l'écouter et nous dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup de votre venue et à très bientôt, j'espère. Et surtout, bon courage. Si vous avez besoin de relais, vous savez que le comité Maméga est là. Nous remercions aussi les financeurs, les politiques de la ville, l'État, les métropoles et le département aussi pour nous permettre de réaliser de telles émissions. Voilà, merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci Sidi.